Radio Okapi.
Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bosuma.
Persistance de meurtres, viols et pillages par les groupes armés au sud du Rumwanitouri. Les communautés locales sollicitent l'accompagnement de la MONUSCO jusqu'à la stabilisation de ces entités. Elles ont exprimé ce vœu à une délégation de la MONUSCO en visite sur place et conduite par son chef de bureau en Ituri. Et puis ces mesures d'accompagnement pendant la fermeture de la pêche au lac Tanganyika. Les pêcheurs congolais sont sensibilisés au strict respect de la charte régionale signée dans ce sens par les États membres riverains, ce depuis Kilomoni dans le sud Kivu jusqu'à Moliro dans le Tanganyika. Et puis, Journée internationale des infirmiers, c'est aujourd'hui 12 mai. Nos infirmières, notre culture, c'est le thème retenu cette année. Pour en parler, nous recevons Komba Djeko, président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC. Madame, Messieurs, bonjour. Les violences communautaires se poursuivent dans les chefferies de Walindubindi, Baima Boga et Banyari Tchabi au sud du Rumu. On enregistre régulièrement les meurtres, viols et pillages perpétrés par les groupes armés. Face à ces défis, les communautés locales sollicitent l'accompagnement de la MONUSCO jusqu'à la stabilisation de ces entités. L'appel a été lancé lors de la visite sur place d'une délégation de la mission onusienne conduite par son chef de bureau en Ituri. Karna Soro revient de la zone où les bases de la MONUSCO ont été fermés, notamment à Veba. Jean-Claude Lowe, qui a fait partie de la délégation, il nous fait le point.
Pour réduire ces violences, la jeunesse demande à la MONUSCO d'organiser et de financer des formations professionnelles et des projets communautaires tels que la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique ou encore la coupe et couture. Le président de la société civile d'Aveba affirme que, faute d'occupation, certains jeunes du milieu se livrent à des actes de banditisme et parfois avec des armes à feu. Antipas Baraka.
Nous avons demandé à la MONUSCO surtout de former ces jeunes, parce qu'une fois ces jeunes seront formés, ils auront leur occupation dans la communauté. Quelqu'un qui est déjà occupé ne peut pas se donner à des actes de vandalisme.
Pour sa part, le président de la communauté Niali de Tchabi plaide pour la réalisation des projets communautaires qui vont inciter de nombreux jeunes ayant fui l'activisme des rebelles d'ADEF de regagner leur village. En réponse, Marc Carnassoro, le chef de la MONUSCO en Ituri, espère réaliser des projets à impact durables qui vont réellement réduire les risques de violences communautaires.
Il va y avoir des discussions approfondies avec eux pour identifier les types de projets que nous pouvons faire qui peut effectivement avoir un impact sur la réduction de cette violence communautaire.
Le but de cette visite dans ces entités était de rencontrer les populations locales afin de les écouter et voir dans quelle mesure apporter des solutions aux défis sécuritaires quasi quotidiens auxquels elles font face. De retour de la zone, Jean-Claude Lucky, d'Ile Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika. Le superviseur national Centre Nord pour le projet, la Tafima, sensibilise les pêcheurs congolais depuis Kilomoni dans le territoire d'Uvira au sud Kivu jusqu'à Moliro dans le territoire de Moba, province de Tanganyika. Sensibilisation au strict respect de la charte régionale signée par les États membres riverains pendant la période de repos biologique pour la reconstitution du stock halieutique du lac Tanganyika. Muzuma Nirisasi l'a dit hier en marge de la marche de contestation de cette mesure par les associations des pêcheurs d'Uvira. Explication, Fiston Ngoma Mayabala.
La charte régionale a érigé en infraction les violations de certaines de ses dispositions. Elle prévoit des sanctions pour non-respect des normes. C'est par exemple la capture des poissons de tailles inférieures aux tailles autorisées, le déversement de substances toxiques ou néfastes dans les eaux du lac Tanganyika, ainsi que l'exercice d'une activité de pêche commerciale sans licence ou permis de pêche. Le superviseur national Muzuma Nirisasi a donné d'autres détails concernant la surveillance dans les eaux du lac Tanganyika pendant la période de la fermeture de la pêche.
Les quatre pays vont surveiller au même moment. Si vous vous faites attraper par les Tanzaniens, ils vont vous juger selon la loi de leur pays. Et vos engins seront traités selon la loi tanzanienne. Si vous êtes attrapé par les Burundais, ils vous amènent au Burundi, vous serez traité par la loi burundaise. Ainsi de suite. La charte ne remplace pas la loi sur la pêche.
Ces chercheurs au département de biologie au CRH Uvira a rejeté en bloc les rumeurs qui font état de la présence de sept couches dans la profondeur des eaux du lac où les poissons seraient en train de mourir de vieillesse. Pour lui, les poissons ne peuvent pas vivre au-delà des 100 mètres de profondeur des eaux à la suite du manque d'oxygène sur les lacs. Irak. Par ailleurs, à deux jours de l'entrée en vigueur de cette mesure de la charte, seule la Tanzanie n'a pas encore signifié officiellement à l'autorité du lac Tanganyika son accord de suspendre la pêche dans sa partie lacustre. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Restons dans l'environnement pour signaler qu'une séance académique sur le Fonds vert pour le climat, un mécanisme financier de l'ONU rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a eu lieu hier à Kinshasa au Conseil économique et social. Cette séance qui a été dirigée par Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, président de cette institution consultative, a reçu comme orateur l'ambassadeur Tosi Mpanoumpanou, cet économiste de formation avec plus de deux décennies dans le développement durable, a d'abord présenté le Fonds vert pour le climat en évoquant sa vision, ses objectifs et son fonctionnement, mais il a aussi expliqué les raisons pour lesquelles la RDC, pays solution en matière de lutte contre le réchauffement climatique, peine à ce jour à bénéficier des financements du Fonds vert pour le climat. On écoute Tosi Mpanoumpanou dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Le fonds porte donc sur des actions d'atténuation, réduction des gaz à effet de serre, sur des actions d'adaptation. On a procédé à une discrimination positive en nous assurant que seuls 50% des financements allaient vers l'atténuation, parce que généralement les financements climatiques font la part belle à l'atténuation et ne donnent pas beaucoup de ressources à l'adaptation. Ce fonds-là donne 50% à l'atténuation, 50% à l'adaptation. Des 50% qui vont à l'adaptation, 50% vont aux petits étincelants en développement, aux pays les moins avancés, aux pays africains. Et donc ce fonds est censé vraiment accompagner les États les plus vulnérables face au changement climatique. Malheureusement, à cause de raisons telles que la faiblesse de certains arrangements institutionnels au niveau local, la faiblesse de certaines institutions financières, puisque parfois le fonds appelle à faire du cofinancement au niveau local, la faiblesse au niveau de certaines capacités à élaborer un pipeline de projets bancables, viable. Tout ça fait que malheureusement, nous n'ayons pas pu accéder à ce fonds à la hauteur d'autres pays qui vraiment ont pu bénéficier de ce fonds pour plusieurs financements.
Province du Haut-Katanga, une vive tension s'observe depuis ce matin à la compagnie minière de Kambov, Komika. Les agents de cette entreprise située dans le territoire de Kambov exigent l'organisation des élections syndicales telles que décidées par la ministre du Travail et Prévoyance sociale. Écoutez à ce sujet l'un des manifestants joint par Jean Gando.
Les gens sont en train de brûler des pneus et brandir des calicots sur lesquels ils sont en train de réclamer l'organisation des élections syndicales et aussi l'amélioration des conditions sociales des agents. Depuis plusieurs jours déjà, les agents ont rédigé des mémos qu'ils ont adressés à des différentes instances, dont le gouvernorat du Haut-Katanga, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à l'administrateur du territoire de Kambov, au DG également de Komika. Les agents sont en train de réclamer l'organisation à tout prix des élections parce que ça fait déjà 6 ans qu'on avait attaqué Otuk comme maison syndicale qui nous représentait, mais nous avions remarqué que ces deux maisons n'ont rien arraché entre les mains de l'employeur. Les avantages liés au salaire sont insignifiants. Et vu l'arrêté de la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale du 23 février, qui a donné l'aval à ce que les employeurs organisent les élections dans toutes les entreprises, nous avions également saisi l'opportunité pour rédiger des mémos. On a envoyé à des différentes instances. Et puis là, ce matin, les agents se sont soulevés maintenant pour manifester. Dans la concession, tout est calme, les machines sont à l'arrêt. On a arrêté toutes les usines, l'usine de la première phase qui est un concentrateur et l'usine de la deuxième phase qui est une usine électrométallurgique.
Contactez le directeur général adjoint de cette entreprise a promis de s'exprimer très prochainement, notant que Komika, qui existe depuis 8 ans, emploie plus de 1740 agents et produit le cuivre et le cobalt. Célébration aujourd'hui 12 mai de la journée des infirmières et infirmiers. Au Maniema, cette journée est célébrée dans la méditation car ils disent être délaissés malgré leur dévouement dans la prise en charge des malades. Dans une déclaration faite ce vendredi à cette occasion, le président du syndicat des infirmières et infirmiers de l'hôpital général de référence de Kindu interpelle les gouvernants sur leur prise en charge. Selon lui, 7% seulement des infirmiers sont mécanisés. On écoute Ami Sisselemani au micro de Florence Kiza.
Nous célébrons celle-ci avec très miette et joie, moins de 30% en RDC et moins de 13% en Maniema. Excellence, Monsieur le ministre national de la fonction publique RDC, nous vous informons qu'en vérité, malgré la chanson quotidienne que tout Congolais chante qui est celle-ci, « Dressons nos fronts, longtemps courbés ». En vérité, nous les non-médecins en général et infirmiers en particulier, nous n'avons pas encore dressé nos fronts. Pourquoi? En se référant au Code universel du travail qui stipule que tout agent de l'État a le devoir de travailler et a le droit de toucher son salaire. Nous menons une vie sociale très très médiocre. Chaque jour, 3h et 4h du matin, nos cerveaux sont chauffés. Quoi mangeront nos enfants? Les travaux que nous fournissons sont bâclés et n'ont pas l'opulence. Pour votre information, au Maniema, il n'y a que 7% des infirmiers qui sont mécanisés et les autres ne le sont pas. Au père terrestre, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, suite de la misère infirmière renforcée il y a 16 ans, nous vous exhortons de nous venir en aide en s'impliquant pour que les infirmiers congolais puissent toucher leur salaire et dresseront leur front en date du 30 juin 2023 et vivront comme des hommes.
Nord Kivu, il y a quelques jours, la police lançait l'opération de traque des enfants dits de la rue dans la cité frontalière de Kasindi. C'est pour, dit-elle, lutter contre la criminalité urbaine. Une semaine après son lancement, de nombreux commerçants se disent satisfaits, d'autant que de son côté, la police annonce avoir mis la main sur certains de ces enfants qui s'émettent terreur et désolation dans des commerces de la place. Guylaine Kassassia, reportage.
Kasindi Lubiriya était grand carrefour où plusieurs commerçants viennent se ravitailler en divers produits, notamment du poisson salé. Certains proviennent du Soudan, d'autres de l'Ouganda, de la Tanzanie, ainsi que d'autres coins de la RDC. Certains jeunes désœuvrés ont profité de cet afflux pour extorquer ces commerçants. C'est ce qui a poussé la police à lancer cette opération de traque de ces enfants, devenus un danger pour la population et les commerçants, indique le commissaire supérieur Célestin Limbi, commandant de la police à Kasindi. Vendeurs de poissons saluent cette opération. Falone Kassai est l'une d'eux.
Nous avons des manifestations qui sont connues, mais il y en a aussi des infiltrés. Ils ont des élastiques au niveau du hanche. Lors du déchargement, ils prennent nos poissons et ils mettent ça dans leur truc là. Franchement, par ballon, s'ils se mobilisent vraiment, vous pouvez perdre même pas moins de 10 à 15 kilos. Parce que ça commence maintenant à promettre, comme les agents de sécurité sont là, je pense qu'on va maintenant bien travailler.
Les commandants de la police à Kasindi annoncent avoir arrêté 5 bandits dans un fumoir lors d'une opération de bouclage d'urnes. Le commissaire supérieur Célestin Limbi indique que ces personnes sont auteurs de plusieurs cas de vol des biens de la population. Elles seront déférées devant la justice, précise-t-il. Beni Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que 62 personnes sont détenues dans les cachots de l'Agence nationale des renseignements ANR à Butembo depuis 4 à 5 mois maintenant. C'est ce qu'affirme le CIDOP, Centre international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement. Dans un communiqué de presse rendu public jeudi 11 mai, hier donc, cette organisation de défense des droits humains rapporte que ces personnes sont accusées de participation à un mouvement insurrectionnel. Le CIDOP demande aux juridictions compétentes de se saisir de cette affaire qui viole, selon lui, tous les textes juridiques du pays. Sadiq Aboubakar.
D'après le rapport du CIDOP, il s'agit de 61 civils et d'un policier, tous accusés d'être membres ou collaborateurs des groupes armés. Certains ont été arrêtés en décembre 2022, d'autres en janvier 2023 et un dernier groupe en février dernier, précise le communiqué. En droit congolais, l'officier de police judiciaire n'a que 48 heures pour instruire un dossier avant de le transférer au parquet, indique le document. Le CIDOP demande à l'ANR de bien vouloir transférer ce dossier au parquet près le tribunal de grande instance de Butembo ou à l'auditorat militaire du même ressort selon les cas. Il demande également à ces deux instances de déclencher des enquêtes judiciaires sur les cas de probables arrestations arbitraires et détentions illégales dans les cachots de l'ANR à Butembo et de procéder à la libération des détenus dont les indices de culpabilité sont inexistants. Contacté, le chef de poste de l'ANR à Butembo nous a demandé de nous référer à sa hiérarchie à Beni. Tous nos efforts pour avoir la réaction du directeur adjoint de l'ANR à Beni n'ont pas abouti. Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Butembo dit n'avoir pas la compétence d'inspecter ou d'enquêter le travail de l'ANR.
Et puis, les leçons portant sur la sensibilisation, sur le déploiement des matériels, des leçons en rapport avec le financement du processus électoral, ce sont là quelques leçons apprises lors du processus d'enrôlement dans la province du Sud-Kivu. Cela a été relevé hier au cours d'un café politique organisé par la section des affaires politiques de la MONUSCO Bukavu. Cette activité a eu lieu au quartier général de la MONUSCO Bukavu à Mumba. Elle a mis autour de la table la CENI, la société civile, les jeunes, les femmes, les médias et le PNUD. Objectif, revoir les défis autour de l'enrôlement des électeurs pour des pistes de solutions en termes de préparation des étapes à venir. Plus de détails avec Rachel Kiesse.
Les défis auxquels la CENI Sud Kivu a été confrontée lors du processus d'enrôlement ont permis d'en tirer des leçons pour que la suite du processus électoral ait moins de problèmes. Beaucoup de positifs dans l'organisation de l'enrôlement des électeurs au Sud Kivu, mais au niveau national, les inquiétudes demeurent. Constat de la société civile. Constantin Charodangwa, team leader adjoint du groupe thématique élection du bureau de coordination de la société civile Sud Kivu.
Il y a l'inquiétude sur l'environnement politique. Il y a l'environnement sécuritaire. Nous, de l'Est, ne savons pas si on doit aller aux élections ou on doit d'abord défendre la nation qui est menacée. Il y a aussi cette opacité de la CENI. En bref, nous voulons des améliorations pour rétablir la confiance de la CENI envers les électeurs.
Gaudens Maéché, secrétaire exécutif de la CENI Sud Kivu, revient sur l'importance de cette rencontre.
Il y en a des leçons. Eh bien, nous avons échangé là-dessus. Nous avons évoqué pas mal d'avancées, mais aussi des défis. La MONUSCO a trouvé qu'il était nécessaire que nous puissions nous asseoir et voir ensemble ce qui a été convenablement fait, ce qui a posé des problèmes et comment il faudrait y remédier.
Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À l'issue des discussions en Arabie Saoudite entre des représentants de l'armée et des paramilitaires des forces de soutien rapide au Soudan, un accord a été trouvé dans la nuit de jeudi à ce vendredi visant à dégager des couloirs d'évacuation des civils tout en laissant entrer l'aide humanitaire au Soudan, mais le document ne mentionne aucune trêve ou cessez-le-feu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré au Parlement qu'une enquête sur la visite d'un navire russe à la base navale du Cap était déjà en cours en coulisses avec l'aide des services de renseignement américains. En effet, l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud a accusé jeudi le pays d'avoir fourni des armes et des munitions à la Russie pour sa guerre en Ukraine par l'intermédiaire d'un cargo qui aurait accosté secrètement sur une base navale près du Cap, et ce pendant 3 jours en décembre dernier. Cyril Ramaphosa était au Cap pour répondre justement à des questions au Parlement lorsque la nouvelle des commentaires de l'ambassadeur a été annoncée.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Komba Djeko, président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC. Il nous parle du thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale des infirmiers ce 12 mai, soit nos infirmières, notre culture. Il explique comment valoriser, protéger et respecter la profession infirmière. Komba Djeko s'entretient avec Jemima Mbuyulu.
Monsieur Komba Djeko, bonjour.
Bonjour.
Ce 12 juin, c'est la journée internationale de l'infirmière et de l'infirmier. Sous quel signe est placée cette année?
Pour cette année, il y a toujours un thème international qui est donné pour toutes les infirmières ou tous les infirmiers du monde entier. C'est nos infirmières, notre futur. On nous demande donc de valoriser, de protéger, de respecter et d'investir dans les infirmières pour un avenir durable des soins infirmiers et des santé. Donc par ce thème, on veut se montrer que si nous voulons assurer notre avenir, nous tous, infirmiers et population et gouvernement, pour des soins de santé dans l'avenir, il faut investir aujourd'hui dans la profession infirmière. Il faut valoriser la profession infirmière. Il faut protéger la profession infirmière. Il faut respecter la profession infirmière. C'est ce qu'on veut dire au travers de ces thèmes-là. C'est important de valoriser, de protéger, parce que n'importe qui ne doit pas devenir infirmier. Il ne faut pas que quelqu'un commence ses études quelque part dans une école qui ne répond à aucune norme et à la fin on le proclame infirmier. D'où on demande et à l'État et à la population et aux infirmiers eux-mêmes de protéger les titres infirmiers.
Depuis la création de l'ONIC, qu'est-ce qui a changé dans le positif, dans le travail de l'infirmier au Congo?
Bon, à l'époque, nous n'avions aucune reconnaissance juridique ou officielle. On nous appelait des infirmiers, on nous appelait des paramédicaux, mais depuis la création de l'ONIC, nous avons une identité propre. Nous sommes donc des infirmières et des infirmiers. Il n'y a plus de confusion. Cette identité-là nous donne des droits, nous donne des devoirs et nous donne une personnalité. Parce que si vous avez un enfant qui n'a pas des noms, eh bien, ils se sentent toujours dévalorisés. Mais maintenant, nous avons une profession qui est autonome, même si nous travaillons dans un mode de complémentarité. Mais pour nous, ce qui était fondamental, les noms infirmiers soient reconnus officiellement dans ce pays.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles fait face l'infirmier dans l'accomplissement de son travail?
Madame, je dois dire que le milieu par excellence du travail de l'infirmier, c'est le lieu de soins, c'est-à-dire l'hôpital, le centre de santé. Eh bien, si ces lieux-là ne répondent pas aux normes en termes de dotation, en termes de sécurité, eh bien, c'est la première difficulté que nous avons. Vous savez que depuis 1960, on a créé des écoles infirmières, mais on n'a pas créé des hôpitaux de l'État. Les privés en ont créé quelques-uns à gauche, à droite, mais l'État n'a pas conçu des hôpitaux. Donc, il y a plus de gens formés, mais il y a très peu de lieux de travail. Et là où il y a des lieux de travail, dont les hôpitaux et centres de santé, l'équipement le plus élémentaire possible, le matériel le plus élémentaire possible, fait défaut. Si je parle déjà d'un lit de malade avec matelas, qu'on ne se trompe pas avec l'image de Kinshasa, on n'a qu'à tourner dans le pays, on va voir qu'on a des hôpitaux qui ont des lits qui n'ont pas de matelas. En première année infirmière, on enseigne comment faire, refaire, défaire les lits d'un malade, mais quand vous n'avez plus de draps, ça pose un problème. Deuxièmement, vous avez des hôpitaux qui n'ont pas d'eau. Comment on peut assurer l'hygiène dans un hôpital si on a des robinets mais l'eau ne coule pas? Si on doit puiser de l'eau dans un seau et se débrouiller avec ça. Je vous cite comme ça quelques exemples des difficultés de la profession infirmière.
Et s'il fallait revendiquer quelque chose aujourd'hui pour l'infirmière en RDC, ce serait quoi?
Ah, ça c'est le grand sujet. Je sais que la tendance est toujours tout d'abord l'argent, qu'on paye les primes, qu'on paye les salaires, tout ça, qu'il faut augmenter. Beaucoup de travail, 24 sur 24 à côté du malade, ne sont pas payés. Le gouvernement a déjà fait quelque part dans le sens de l'augmentation, mais beaucoup reste à faire. Il faut qu'on prenne donc conscience. Surtout que maintenant, nous entrons dans la période où on doit mettre en œuvre la couverture santé universelle. Donc, il y aura plus de personnes qui viendront vers les structures de soins. Il y aura donc une augmentation du travail. Eh bien, si on n'augmente pas les effectifs infirmiers en les recrutant, en les mettant dans les conditions qu'il faut, en leur donnant la prime et les salaires, eh bien, on va être débordé. Les infirmiers vont tomber dans le stress, dans les surménages. Ça va, c'est compliqué. Voilà, quelque sorte, les conditions de travail, les salaires, les primes, non seulement augmenter, mais éponger ceux qui travaillent, qui ne sont pas encore payés. C'était pour nous les plus grands. Et remettre les hôpitaux au standard, même minimal possible, pour que nous puissions travailler à l'aise.
Avant de finir, avez-vous un message pour ceux de votre profession en ce jour qui vous est consacré?
Le message que j'adresse aux infirmières, c'est que cette année, le thème, il est bien clair. Nos infirmières, notre futur. Valorisons notre profession. Nous devons protéger notre profession. Nous devons respecter et faire respecter notre profession. Et nous devons nous investir pour la promotion de notre profession. Deuxième message, c'est que nous devons garder espoir. Il n'y a rien de définitif dans ce monde ici. Il faut garder espoir que les lendemains vont être meilleurs.
Merci, Monsieur Koumba Djeko.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était là notre invité, le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC. Il répondait aux questions de Jemima Mbuyulu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Voilà, on va passer à l'actualité sportive à présent.
Okapi Sport.